おかしいおかしい。
Bonsoir. Troisième son retenu pour publier de la presse de ce soir, à savoir Assemblée nationale, réponse ce vendredi des ministres des Affaires étrangères Alexis Thambo Mwamba et Lambert Mende de la communication média au sujet des motions de défiance initiées contre eux par les députés. En Bandaka, marche pacifique mardi dernier, des militants du MLC réclamant l'implication du chef de l'État pour le retour du gouverneur José Makila. Et enfin, fin mardi dernier de la visite en République démocratique du Congo de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Trois confrères sont avec moi pour en parler. Il s'agit de Fidèle Moussangou, coordonnateur du quotidien Le Phare, un journal paraissant à Kinshasa. Mouyal Mangal, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Et Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord-Kivu. Avant d'aborder le débat de ce soir, écoutons d'abord la revue de presse avec Alain Irung pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes retenus ce soir.
Bonsoir. En rapport avec les trois thèmes retenus pour cette revue de presse, Le Phare écrit « Deux ministres menacés par l'émotion de défiance. Selon le quotidien, d'une manière générale, les députés se sont insurgés contre le propos de Lambert Mende et d'Alexis Thambo Mwamba. La majorité soutient du bout de lèvres mais se dit prête à pardonner. Les députés sont très fâchés à monter sa prospérité. Hier, écrit ce journal, les deux ministres se sont présentés devant la représentation nationale pour écouter les griefs portés contre eux par les députés Emery Okundji et Martin Mokonkole. Bouclant sa mission en RDC, le Conseil de sécurité met Kinshasa devant ses responsabilités, titre le potentiel. Selon le journal, le message est désormais clair. La paix, la stabilité, la sécurité en République démocratique du Congo est avant tout une affaire du gouvernement congolais et des Congolais. Abordant le même sujet Ouru titre, l'équation FDLR au centre du débat. Dans ses colonnes, Ouru précise qu'il est temps que l'ONU passe à une vitesse supérieure en modifiant sa façon de gérer les dossiers FDLR et autres force négative opérant dans l'ex-Kivu. Makila, réhabilitation réclamée lors d'une marche du MLC Mbandaka, souligne Africa News. Près d'une centaine de membres du MLC Mbandaka ont battu pavé mardi dernier en guise de soutien à José Makila tout en sollicitant l'implication de Joseph Kabila. Pour l'avenir, politiser le dossier Makila a quitté le terrain juridique. Le fait que l'on se repose sur la Cour suprême de justice, ajoute le confrère, donne également l'impression d'être à la recherche d'une petite bête.
Merci Alain pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Nicodème Bakoleta, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Commençons par vous. Et vous êtes à Beni. Comment la presse du Nord Kivu a-t-elle analysé l'actualité de cette semaine?
Oui, justement, vous l'avez évoqué, hein, la question de deux ministres qui ont été interpellés à l'Assemblée nationale a occupé une place de choix dans les éditions des journaux ici. Depuis hier, tout le monde était attentif pour savoir quelle sera l'issue de cette motion votée contre les deux ministres. Donc, beaucoup d'intérêt a été porté justement vers l'Assemblée nationale pour savoir quelle sera l'issue, est-ce que ces ministres pourront s'en sortir ou pas.
Merci Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur adjoint du quotidien Le Phare, un journal paraissant à Kinshasa. Et y a-t-il, selon vous, une information importante qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Il y a par exemple la question qui devrait préoccuper tout le monde, c'est les entretiens entre le président de la République, le premier ministre, et probablement le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, avec la délégation du Conseil de sécurité. À ma connaissance, c'est ça la question de fond. L'objet de leur visite concerne la situation à l'Est, la résurgence, la violence, avec la réapparition, la résurrection d'FDLR, qui maintenant répandent le sang partout, menacent la sécurité et même l'autorité de l'État. C'est ça la question du fond qui devait être examinée par les médias. Bon, c'est passé inaperçu par la faute des services de communication et de la présidente de la République et du Premier ministre. On a pratiquement écarté la presse écrite de cette question comme si on voulait cacher quelque chose. On n'a rien dit, on a essayé de camoufler cela, de faire en sorte que les Congolais ne sachent pas ce que cette délégation est allée dire au président. Quel est le message réel qui a été dit au président? Il y a carrément une sorte de chape de plomb là-dessus.
Merci, Mouyal Mangal. Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale RFNC. Est-ce que la presse écrite a été objective dans sa façon d'aborder les différentes informations?
Non, moi je ne saurais pas dire si la presse a été objective ou pas, mais c'est comme a dit Fidel Moussang, quels sont les moyens qu'on met à la disposition de la presse écrite pour être à mesure de relater les faits. Donc chaque média rapporte les faits par rapport au contexte et l'environnement dans lequel il intervient. Dans la plupart des cas chez nous, le jeunesse n'est venu que pour accompagner. Alors que le jeunesse arrive comme un accompagnateur, donc il n'a pas accès à l'information. Il va falloir que le jeunesse soit associé dans la compréhension générale des faits stratégiques qui participent à la diffusion de l'information. Or, chez nous, on ferme d'abord le bureau, et c'est vrai, on peut fermer le bureau, mais lorsque tout a été dit et qu'on est tenté de se séparer, appelez les journalistes. Alors, cette manière de traiter les jeunesse comme je me répète, les accompagnateurs, ça permet pas aux jeunesse d'abord de mieux comprendre l'information et d'avoir la capacité de mieux la diffuser. Si le jeunesse n'a pas mieux compris, comment voulez-vous qu'il puisse mieux diffuser? Donc, s'il y a une question, la grande équation, la gestion de l'information qui doit exister, évidemment, on est dans un contexte où n'importe qui dans notre pays arrive comme porte-parole, chargé de l'information, chargé de la communication, attaché de presse, le profil a toujours posé un sérieux problème. Et comme généralement, on puise dans le carcan familial, on puise dans le carcan des beaux frères et des belles sœurs, et ça a toujours fait défaut. Alors, toute la responsabilité que ça ne marche plus, en ce moment-là, c'est la presse qui devient responsable.
Mais vous, à la RFNC, vous êtes quelque peu privilégié, si on peut le dire.
Non,
dans le sens que vous arrivez à accéder à certaines informations que tout le monde n'a pas.
Non, je dis que c'est une image ancienne. C'est vrai que la RFNC, en tant que média public, est représentée au niveau de la présidente de la République, elle est présente au niveau de la primature, au niveau du Sénat, au niveau de toutes les grandes institutions. Mais il va falloir aussi les efforts personnels des journalistes qui sont attachés à ces services et aussi la capacité des services de communication à livrer l'information à taille qui. Est-ce qu'on peut se dire, maintenant ça c'est une information stratégique, il est bon que les médias congolais soient les premiers à l'annoncer. Dans la plupart des cas, on n'est pas disposé à le faire. Donc on n'a pas véritablement pas des agents de la communication pour pouvoir faire ce boulot-là.
Merci Mouyal Mangal. Premier thème de la tribune de ce soir, Assemblée nationale, réponse ce vendredi des ministres des Affaires étrangères Alexis Thambwe Mwamba et Lambert Mende de la communication et médias au sujet des motions de défiance initiées contre eux par des députés. Les ministres concernés ont répondu ce vendredi aux griefs formulés contre eux. Pour rappel, Alexis Thambwe Mwamba s'est expliqué au sujet des propos jugés discourtois à l'endroit des députés. Des propos tenus en mars dernier à Goma, notamment en comparant le salaire d'un enseignant du Nord Kivu de 10 ans à l'émolument d'un mois d'un député. Lambert Mende, quant à lui, s'est expliqué sur le fait que la RTNC ne couvre pas régulièrement les séances plénières de l'Assemblée nationale. Et les députés membres de l'opposition qui ont initié cette motion, c'est notamment Martin Mukonkole et Emery Okundji. Comment s'est déroulée cette séance à l'Assemblée nationale? Réponse dans cet élément de Basile Bakumbane.
C'est depuis 11h10 que les travaux ont repris ce vendredi au Palais du Peuple, accusé d'avoir tenu de propos discourtois à l'endroit des parlementaires. Le ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba, a eu juste 10 minutes pour démontrer que ce propos tenu le 25 février dernier à Goma n'était pas destiné aux députés. Toutefois, reconnaissant les avoir lésés, Alexis Thambwe Mwamba a retiré ses paroles en demandant pardon sur le champ. Ces derniers ont accepté par des acclamations. C'est au tour du ministre de la Communication et des Médias de fournir des moyens de défense aux griefs retenus à sa charge. Rappelons que Lambert Mende est accusé de gérer le média comme à l'époque dictatoriale, d'avoir arrêté les retransmissions en direct de plénière de l'Assemblée nationale et aussi d'avoir ordonné la coupure du signal de la chaîne de télévision de l'Assemblée nationale pour ne citer que cela. Lambert Mende semble refuter toutes les accusations à sa charge. En attendant la poursuite de travaux jusqu'au vote, l'ambiance reste bien calme ici au Palais du Peuple.
Oui, Mbuya Mangal, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Un député de la majorité, Zeno Mukwakani, pour ne pas le citer, a estimé que ce débat n'avait pas sa raison d'être. Pour lui, une motion est fondée lorsqu'elle fait état de la gestion d'une autorité donnée. Or, pour le cas du ministre Alexis Tambwe, il ne s'agit pas de la gestion, mais plutôt des propos tenus. Pensez-vous que ce débat était sans objet?
Ben oui, je pourrais m'exclure dans la même logique en disant que c'est un débat sans objet. Mais lorsqu'on connaît le comportement, l'agir collectif congolais, je vais plutôt analyser autre chose. Ça veut dire qu'il s'agit des salaires, le salaire des députés par rapport au salaire des fonctionnaires de l'État. Ça pose un sérieux problème. Depuis 50 ans, la République démocratique devenue indépendante n'est jamais parvenu à résoudre les principaux problèmes, notamment la sécurité sociale des gens qui travaillent au service de la République, que ce soit pour le président de la République, que ce soit pour les ministres, que ce soit pour tout le monde. Souvenez-vous qu'à son temps, que Léon, premier ministre, avait dit que tout le monde était sous-payé. Mais comment voulez-vous que dans un pays, tout le monde soit sous-payé et que les services soient performants? On ne peut pas être performant lorsqu'on sait que les salaires qu'on est tenté de payer aux fonctionnaires ne leur permettent pas de résoudre les problèmes. Alors c'est ainsi que vous allez remarquer que comme l'administration est fragilisée, ce sont les cabinets politiques, je dirais les cabinets ministériels, qui ont tendance de récupérer la plupart des dossiers, sinon tous les dossiers, mais avec le risque de les perdre. Parce qu'une fois que le cabinet est tombé, les membres du cabinet partent avec les dossiers de l'État. Donc ça pose des sérieux problèmes. Notre pays n'a jamais résolu un problème. Vous aurez remarqué, pendant toute la gestion du président Kabila, lorsque les députés devaient aborder la question de leur salaire, ça se faisait avec obscurité. Il faut arrêter les caméras, arrêter les micros, ils discutent. Ça veut dire la transparence aurait voulu que les députés aussi discutent à la place publique de leur salaire, de telle sorte que ça ait des conséquences sur les salaires de tous les Congolais.
Et vous pensez que les cadres utilisés par le ministre Alexis Tambwe-Wamba étaient un cadre approprié?
Moi, ça devient pour moi un prétexte. Moi, je ne suis ni député ni ministre, mais je me dis que je me mets du côté du Congolais moyen. Prenez justement, aujourd'hui, un phénomène Mboudi. Après 5 ans, c'est quand même grave pour un pays qu'on ne soit jamais parvenu à résoudre un problème qu'on a discuté de manière franche et de manière directe. Le gouvernement a discuté avec les fonctionnaires congolais, mais au bout de 5 ans, le même gouvernement est incapable d'exécuter la promesse, ou du moins ses engagements. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Parce qu'en fait, les députés parlent pour se protéger. Le ministre aussi a parlé pour se protéger. Mais le fond du débat, c'est la question de la sécurité sociale de tous les Congolais. Combien gagne le Congolais qui travaille? Combien gagne le Congolais qui, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans, servi la République et qui soit à mesure de dire « je suis fier d'avoir servi ». Donc il y a un seul problème qu'on n'est pas disposé à résoudre. Ça fait partie de ce que moi j'ai toujours considéré comme des questions inachevées. La sécurité sociale, les salaires des enseignants, les salaires des fonctionnaires, finalement les salaires de tout le monde, ça fait partie des questions inachevées. Et vous allez remarquer, et même les ministres, dans la plupart des cas, dès que les ministres quittent le gouvernement, observez-le au bout de 3-4 mois, vous verrez la plupart des ministres debout en train d'atteindre les taxis, comme c'est tout le monde, ça veut dire il y a quelque part des questions non résolues.
Merci. Merci. Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur adjoint du quotidien Le Phare. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Les fonds des propos du ministre Alexis Tambwe-Wamba, les fonds est pertinent. C'est moi la forme qui...
Moi, je partage le point de vue du patriarche Zeno Mukwakani. Mm-hmm. Et puis, c'est un ancien syndicaliste. En même temps, je déplore cette médiocrité politique et intellectuelle des députés. Ça, ce n'était pas un débat. Encore une fois, on a étalé sur la place publique la médiocrité intellectuelle et politique. Les débats devrait se focaliser, comme a dit Mukwakani, sur la gestion. Notamment, actuellement, il y a un problème grave, le prix du passeport. Dans un pays où 85% de la population est au chômage, dans un pays où 85% vit de l'informel, comment voulez-vous fixer le prix du passeport à 400$? Le prix officiel, le ministre l'a dit, 150$ plus 20$ pour le formulaire. Du papier, pamba, comme on dit, 20$. et le prix 150. Alors maintenant, en même temps, il y a une série de pièces à fournir, certificat de nationalité. Nous apprenons maintenant que, contrairement à ce qui s'est passé, c'est le ministre de la Justice qui signe les certificats de nationalité. Mais cet homme-là ne travaille plus. S'il doit signer, par exemple, 500 certificats de nationalité par jour, il ne travaille plus, c'est qu'il y a un goût sur roche. Ensuite, vous avez le casier judiciaire, qui à l'époque coûtait aussi 20 dollars pour rien. C'est le prix que vous payez, vous n'obtenez aucune quittance là-dessus. Ça coûte 100 dollars. Donc, le passeport actuellement pour l'avoir, sans compter les à côté, vous dépassez 400 dollars. Alors, ça, c'est la question qu'il fallait poser à Tambo Mwamba. Lui poser la question, mais monsieur, ce petit carnet qu'on appelle passeport, coûte combien l'imprimeur? Moi, je me suis renseigné. Ça coûte 10 euros. Donc, en tout pour tout, 14 dollars. Alors, de 14 dollars à 400 dollars, ça, c'est trop fort, ça. Je ce qui m'excuse beaucoup, c'est une escroquerie d'État. La question de fond serait là. Première question, il fallait que Tom vous explique comment il est parvenu à 150 dollars pour un petit carnet. Deuxième élément, admettons qu'il faut maintenant aller à la technologie haute. Ces machines qui fabriquent des passeports biométriques, on peut les acheter. D'autant que nous avons une grande imprimerie qu'on appelle la banque, l'hôtel des monnaies. Pourquoi ne pas fabriquer ce place pour épargner la sortie des devises? On sait qu'il sortit des devises, parce que là, il y a magouille. Moi, ça me rappelle toujours, excusez-moi les termes, ça m'appelle l'achat des billets des banques en Argentine, avec un affaire. Ça recommence maintenant. Donc, quelque part, il y a magouille. Première question de fond. Deuxième question de fond. Tambo Mwamba devait être entendu sur la gestion de nos relations avec le Rwanda. Pourquoi la RDC ne nomme pas l'ambassadeur pour Kigali? Kigali a nommé. Et ici, on traîne les pieds. Est-ce que pour nommer l'ambassadeur Kigali, il faut faire un concours ou bien revenir à Sun City? Il fallait lui poser la question là-dessus. Deuxième élément, les opérations conjointes qui n'ont pas échoué du tout, mais qui sont mal gérées maintenant du côté congolais. Pourquoi? Les militaires au front ne sont pas payés, n'ont pas la ration. La paye et la ration sont détournées ici à Kinshasa. Et on connaît à la question posée par le Premier ministre lors de sa tournée à l'Est à un colonel pour savoir combien il avait reçu. Le colonel lui a répondu 5000 dollars. Adolphe Moussut se retourne et il interpelle le ministre des Finances. Monsieur, vous avez envoyé combien? Il dit 200 000 dollars. Et l'affaire s'est terminée là-bas. Pas de sanctions. En principe, on devait commencer par sanctionner le ministre des Finances. Depuis quand le ministre des Finances peut envoyer 200 000 dollars comme ça, à la main? Il y a des banques. Et là, on ne peut pas découvrir la traçabilité qui a touché cet argent. Parce qu'il y a magouille. Vous voyez, donc, voilà les questions de fond. Le ministre des Affaires étrangères devait répondre sur les questions de nos relations avec le Rwanda, la normalisation. Ensuite, la question du passeport. Là, la question de fond. Mais les propos, bon sang, le propos. Bon, il les a tenus. Quel est le député qui est mort? Qui en est mort? Personne. Donc, les députés et l'Assemblée nationale, moi j'ai envoyé un message à ce monsieur président de l'Assemblée nationale, de carrément de dire non, monsieur, nous n'allons pas étaler sur la place publique la médiocrité. Qui ne sait pas qu'il y a des signes droits? Qui ne sait pas qu'ils ont reçu une type et qu'ils vont payer pendant 5 ans? Donc la question de fond, c'était de dire non, pas ça, prétexte, on devait l'interpeller sur les deux questions fondamentales. Et en même temps, troisième question, l'interpeller sur le sort des diplomates congolais dans les capitales occidentales. Merci. Voilà la question fondamentale qu'il fallait lui poser.
Merci Fidel Moussangou. Nicodème Bakoleta, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Fidel Moussangou vient de dire que le ministre Alexis Tambo Mwamba devait en principe répondre sur la question de nos relations, les relations entre la RDC et le Rwanda, et sur la question du passeport. Êtes-vous de cet avis?
Oui, Fidel a totalement raison. Fidel a vraiment raison parce que la motion de décision est une arme et les députés peuvent faire usage contre le membre de l'exécutif qui n'arrive pas à bien conduire leur département. Donc aujourd'hui, les députés sont plus acharnés contre les personnes qui expriment leur opinion que ceux qui ont détourné les deniers publics et qui se sont livrés à des corruptions. Non, on devrait plutôt chercher des personnes qui ont détourné l'argent de l'État et alors voter des motions contre eux. Bon, Alexis Tambo Mwamba a présenté ses excuses, vous l'avez même dit. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il a présenté les excuses, mais le fait est là, la réalité est là. un enseignant ici dans la province, je suis dans la province de Nord-Kivu, touche autour de 32 000 francs congolais. Si on prend les taux de 800, ce qui va donner une affaire de 40 dollars par mois, donc pour un enseignant ici. Et pour atteindre, je fais un calcul simple, 4 000 dollars, et pour cet enseignant qui touche 32 000 francs, il lui faut 10 ans, voyez-vous. Pour que l'enseignant là puisse trouver 4000 dollars, il lui faut 10 ans. Donc, je pense que c'est la réalité. Hein. Il n'y a même pas à spéculer là-dessus. C'est parce que les députés sont un peu vexés, sont un peu mécontents qu'on puisse tirer l'affaire au clair, qu'on puisse dénoncer l'affaire tout haut. Je dirais même, le péché peut-être du ministre, c'est d'avoir dit tout haut ce qui s'est dit. Merci. C'est la réalité, on ne peut pas nier ça aujourd'hui. Ça, c'est un exemple de l'enseignant, mais c'est tous les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas bien payés. Et d'ailleurs, pour ces propos, j'annonce que dans le territoire des pays où nous sommes ici, il y a même une pétition que la société civile a entamée pour qu'on puisse signer contre ces députés, parce qu'on trouve que les députés ne remplissent pas bien leurs tâches, leur travail. Ils sont là pour leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt de la communauté. On les a votés, ils sont partis, mais bon, voyez-vous, même pendant les vacances parlementaires, on ne le voit même pas ici. Eh bien, ils sont là pour les intérêts. Donc, ces députés ont la honte d'être heureux tout seuls. Ils trouvent que ce propos va révolter les gens. En tout cas, c'est une situation qui ne change pas.
Merci, Nicodème. Votre point de vue, Mouyal Mangal, pensez-vous que ces deux motions pouvaient aboutir à la déchéance de ces deux ministres?
Non, il ne faut pas s'élever. Le dernier exercice politique, du moins électoral, qui a permis le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale a démontré que la majorité était une composante stable de par le vote par lequel Boshab a été élu, plus de 328 voix à peu près. Donc ça démontre qu'aujourd'hui, donc c'était l'illusion. C'est vrai que l'opposition s'est appuyée sur cet aspect pour faire entendre sa voix, mais jusqu'à arriver à la déchéance, bon, je ne crois pas. En tout cas, c'était peut-être juste un besoin d'exercice parlementaire et ça s'est limité là. On ne pouvait pas arriver à une déchéance.
Oui. Kidem Moussangou, vous partagez la même opinion?
Non, écoutez, moi je vais aller plus loin. Parce que je dis que, encore une fois, on a étalé la médiocrité politique intellectuelle. Et là, c'est dans le camp de l'opposition. L'opposition actuelle, vraiment, ne joue pas son vrai rôle. Le contrepoids à la majorité. L'opposition a beaucoup d'éléments pour gêner la majorité. On n'aurait même pas cherché une motion de défiance, non. On aurait seulement une motion d'interpellation, par exemple, ou bien d'information. Et là, on aurait posé des questions de fond pour gêner la majorité et mener, en même temps, mettre la majorité dans l'obligation de modifier. Parce qu'il faut que l'opposition aide le gouvernement à modifier, à améliorer son comportement. Si aujourd'hui, par exemple, on interpelle le ministre, je prends un exemple à côté, l'affaire du passeport. Si on met au tapis Tamamba, on lui prouve que ce petit carnet coûte à l'imprimeur 10 euros et on donne la preuve. Alors, comment est-ce qu'il passe de 10 euros à 400 dollars? Là, on gêne le gouvernement et on peut maintenant aller donc obliger le gouvernement à régler. Même on peut saisir la Cour constitutionnelle pour cette affaire. Ou disons, la justice pour dire, écoutez, voilà, ici c'est une question de escroquerie d'État par un ministre. Enfin, la question du Rwandais. On peut mettre le gouvernement dans l'obligation de régler cette affaire le plus tôt possible. Ensuite, de vérifier si les militaires auront tous leurs soldes. S'ils reçoivent la ration, et la ration, ils ne peuvent pas la recevoir là-bas, c'est l'Est du Kivu, c'est la région la plus riche sur le plan agricole. Haricots, pommes de terre, viande. Donc on la cherche sur place. Ça, c'est vraiment les morceaux de fond. Là, on voit l'opposition qui joue. Mais ici, les gens de l'opposition, moi, ils me déçoivent.
Oui, Nicodem, vous êtes du même avis?
Oui, je suis tout à fait du même avis parce que, vous savez, il est difficile pour les députés de l'opposition de pouvoir faire passer la motion de défiance comme ils ont tenté de le faire. Ce sera très difficile. Il faut utiliser d'autres moyens pour secouer la majorité parlementaire et pour qu'on puisse trouver des solutions à certains problèmes. L'autre a parlé tout à l'heure des haricots, mais je veux vous faire rire. Pendant la guerre, qu'est-ce qu'on a constaté? On sait que la forêt de Nord-Kivu, c'est une forêt où on peut trouver facilement les haricots, des pommes de terre. Mais écoutez, les haricots,
on achetait à Kinshasa, on payait l'avion, donc on embarque dans l'avion et on amène les haricots de Kinshasa pour la province du Nord-Sud. Voyez-vous, au lieu d'envoyer l'argent et acheter les haricots sur place, les haricots vont quitter Kinshasa pour venir dans la province. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit dénoncer. Bon, l'opposition, bon, peut-être ne sait pas, a toujours des excuses de se dire que bon, on ne sait pas faire passer une motion, mais l'opposition devrait utiliser d'autres stratégies pour se faire attendre.
Merci, c'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème. En Mbandaka, marche pacifique mardi dernier, des militants du MFC réclamant l'implication du chef de l'État pour le retour du gouverneur José Makila. Ces militants, c'est compté par plusieurs centaines, aux côtés de quelques ministres provinciaux et autres cadres administratifs de cette formation politique. José Makila, sans toi, la province de l'Équateur est vouée à l'échec. Ce sont les écrits de leur calicot. La marche partie du siège du MFC a connu son point de chute au palais de la justice, où un mémorandum a été lu par Nicolas Issofalé, président fédéral du MLC Équateur. Document dans lequel le militant du MLC réclame l'implication du chef de l'État pour la réhabilitation du gouverneur José Makila comme gouverneur de la province. Nicodème Bakoleta, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Est-ce que le chef de l'État devrait s'impliquer dans ces dossiers, à votre avis?
Bon, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, dans cette affaire, la cour d'appel de Mbandaka, de façon verdict, a trouvé qu'il y a eu un vide de procédure et que la destitution du gouvernement, le gouvernement destitué devrait regagner le point de la paix. Mais en même temps, la Cour suprême de justice, dans son arrêt, trouve que la démarche de député provincial de l'Équateur était constitutionnelle. Voilà. Ces deux conclusions prêtent un peu de confusion pour ceux qui ne sont pas bien initiés au droit. Mais je pense que la question maintenant est posée au chef de l'État. On sait que la province de l'Équateur, c'est une province où c'est la base même du MLC et que le gouverneur José Makila, il est du MLC. Et que cette question, bon, ça cache de main noire de la politique là-dedans. On sent que ce sont les deux partis qui sont en rapport de force. C'est les députés professionnels qui veulent le départ du gouverneur José Makila. Je pense que pour rétablir la paix, la sérénité, il faut que ces députés puissent d'abord filer les cabinets de la paix. Dans les cas contraires, ça sera difficile parce que avec le gouverneur, ils seront toujours dans une sorte de tension, dans les climats de méfiance, de suspicion. Et bien même s'il peut retourner, tant que les députés n'auront pas encore filé les cabinets de la paix, ça sera difficile. Je pense que José Makila pourrait se servir de l'exemple de son homologue de la province du Sud-Kivu. Vous savez, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, lui aussi, a été vomi par les députés et que après la justice qu'il avait rétabli dans ses droits, alors il a tiré son appel de péché, il est sorti à toute dignité, à tout honneur. Et pour Makila, je pense qu'il devrait se servir.
Allô? Allô, Nicodème? Nous avons perdu Nicodème Bakoleta. Du côté des notables de la province de l'Équateur, le sénateur ANP Henri Thomas Lokondo s'est prononcé ce mercredi sur le sujet. Pour lui, seule la Cour suprême de justice doit nous éclairer sur l'affaire José Makila. Ce flou entretenu par la justice, a-t-il ajouté, doit prendre fin. Cependant, il s'est dit confus de la manière dont la province de l'Équateur est gérée. Fidel Moussangou, coordonnateur adjoint du quotidien Le Phare, les militants du MLC pensent que la Cour suprême doit faire preuve de son indépendance. Et pensez-vous que la justice congolaise n'est pas indépendante?
Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir faire des cabinets dictateurs. Qu'est-ce que le président de la République a à voir dans un dossier qui a déjà trouvé sa réponse devant la Cour suprême de justice qui est le juge suprême? Il peut plus. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'impliquer. Mais demain, quand il faudra l'impliquer pour l'ANP, ils vont dire non, c'est le dictateur. Non.
Mais quelle est cette réponse? Parce que la Cour suprême de justice rend son arrêt qui dit la requête du gouverneur José Makila est jugée recevable mais non fondée. Et c'est limite à ça. La suite, on ne connaît pas.
Non. Le problème est celui-ci. Voilà. La Cour suprême, c'est le juge suprême. La Cour s'est prononcée, a rendu une décision. Tout le monde doit obéir. On peut critiquer, mais moi je crois que les combattants du MLC auraient pu avoir une attitude politique. Laquelle? Est-ce qu'un gouverneur qui a été déçu par l'Assemblée ne peut-il pas se représenter comme candidat? Je ne crois pas. Donc, si le MLC est convaincu que il contrôle l'Assemblée provinciale, d'accord, on demande à la CI d'organiser les élections et le MLC représente encore Makila. Et si Makila est réélu, il gouverne.
Parce qu'il doit mener cette démarche.
Non, c'est
la justice.
Non, c'est pas la justice. La justice, n'a pas interdit à Makila de se représenter, ne l'a pas invalidé, ne lui arrache pas ses droits civiques et politiques. Oui. Alors, quelle est la procédure que la plus facile et tactique? Nous contrôlons l'Assemblée provinciale, toutes qui sont la majorité. Ici, si on dit, ok, laissez les élections se dérouler. Et on représente juste Makila. Et si réellement le MLC contrôle l'Assemblée provinciale, Joseph Makila sera réélu. Hein, il va être investi, tout simplement. Parce qu'il n'a pas été révoqué, non. C'est une affaire de l'Assemblée provinciale qui l'a tissu. Il a saisi la cour d'appel, qui a cassé la décision de l'Assemblée provinciale. Ici, la Cour suprême a pris une décision qu'on appelle ambiguë. Alors, dans ces cas-là, on laisse la CI réorganiser les élections, on représente Makila. Et si, mais j'ai l'impression que c'est au sein du MLC où il y a problème. Parce que les gens, une grande partie des gens du MLC ici à Kinshasa, n'acceptent plus Makila. Et d'ailleurs, il faut voir le comportement. La plupart des notabilités du MLC n'ont pas protégé Makila, n'ont pas défendu Makila.
Ce n'est pas le MLC qui a demandé à la Cour de ne pas saisir la CI pour organiser de nouvelles élections.
Le problème est celui-ci. Si le MLC ici, la direction politique, et le MLC en Mbandaka, l'Assemblée provinciale, parce que moi, ça m'étonne. Comment est-ce que le bon, évidemment, ils ont dit non, c'est une partie des autres. Mais si le MLC veut récupérer la province, là, qu'a représenté Makila. Et Makila sera réélu, et la fin est. Mais si maintenant on commence à laisser à faire ceci, et puis ces marges-là de protestation, c'est une stratégie dépassée. C'est une stratégie politique efficiente qu'il faut utiliser. Et la seule qui est là, c'est dit, allons aux élections. On donne un mot d'ordre aux députés provinciaux, mais son majorité, c'est Makila. Et on passe aux élections, Makila est réélu. Et qu'est-ce qu'il va en côté?
Mais qui va décider d'aller aux élections?
Parce qu'on dit, si Makila, en fait, on veut pousser Makila à démissionner. D'accord? Bon. Makila refuse de démissionner. Donc, la Cour suprême invalide la décision de la Cour d'appel. Ça veut dire, la Cour suprême dit que Makila a été invalidé par l'Assemblée provinciale.
La Cour suprême n'a pas invalidé la décision de la Cour d'appel de Mbandaka.
Oui.
La Cour suprême s'est prononcée par rapport à la requête produite par José Makila.
Oui. Ça dit que José Makila a voulu obtenir de la Cour suprême une décision qui conforte la décision de la Cour d'appel, ce qui n'a pas été le cas. Dans ces cas-là, Makila doit se dire, ok, je m'incline, mais la direction politique demande, bon, allez-y, parce que la province doit quand même élire un gouverneur. Alors, il se représente et il gagne. La Cour ne va pas l'invalider, ni la CI. Parce que, à ma connaissance, il ne dit nulle part qu'un gouverneur qui a été invalidé par l'Assemblée ne va plus se représenter. Non, il n'est pas dit là. Il peut se représenter, surtout que il a son dossier judiciaire propre. Il n'a pas été condamné par une justice pour quelque problème que ce soit. Donc, il bénéficie encore de tous ses droits civiques et politiques. C'est la seule position qu'il faut faire. Parce que si aujourd'hui, qu'est-ce que le président de la République peut faire contre la Cour suprême? Il peut rien faire.
Merci, Fidèle Moussangou. Mouyal Mangal, cette ambiguïté est entretenue par qui?
Mais il n'y a que le politique qui est capable d'entretenir l'ambiguïté, qui ne communique qu'en fonction de ses intérêts. Or, dans cette affaire, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de contredire José Makila. Il y a l'information n'est livrée que du seul camp. Ça vient que de José Makila, ça vient que du MLC. Il n'y a pas une autre instance, il n'y a pas un autre groupe opposé à, visiblement, il n'y a pas un groupe opposé à José Makila. Donc, il n'y a aucun groupe qui a intérêt de livrer l'information pour l'instant. Mais justement, les quelques bribes d'informations qu'on a nous laissent dans la confusion. Or, pourtant, ça vient d'une même source. C'est vrai que quand on n'est pas juriste, quand on n'est pas avocat, c'est difficile de se lancer dans une opération comme ça. Parce qu'en principe, comme la Cour d'appel de Mbandaka s'était prononcée, donc la Cour suprême de justice ne devait plus intervenir. Mais on n'est pas juriste, difficile d'aller plus loin. Mais il y a plus chez nous le débat politique. Parce que le tort de la République démocratique du Congo, c'est de tout politiser. Dès qu'on est face à une équation difficile, on ramène tout sur le terrain politique. Or, lorsqu'on ramène le débat sur le terrain politique, on ramène le débat sur le terrain sentimental. Ce qui est politique et sentimental est donc porteur de confusion.
Merci. Nicodème Bakoleta, ne pensez-vous pas que en saisissant de manière simultanée deux juridictions, à savoir la Cour d'appel de Mbandaka et la Cour suprême de justice, on nous dit qu'il n'est pas, que Bakoleta n'est pas en ligne. Oui, donc je repose la question à Fidel Moussangou. Ne pensez-vous pas que en saisissant de manière simultanée deux juridictions, à savoir la Cour d'appel de Mbandaka et la Cour suprême de justice, José Makinda a rendu lui-même compliqué sa situation?
Non, écoutez, il y a ceci. José Makinda a été invalidé parce qu'accusé d'avoir détourné des fonds. Alors, lui, ses avocats lui ont demandé de saisir la Cour d'appel. Qui l'a rétabli? Qui a donc cassé la décision de l'Assemblée provinciale, conformément à la Constitution de la République en ce qui concerne l'élection ou la déchéance d'un gouverneur de province. Alors maintenant, il est parti devant la Cour suprême de justice pour avoir un renforcement de plus. Mais la décision de la Cour suprême est ambiguë. C'est-à-dire que la requête doit avoir contenir certains éléments qui ne cadrent pas avec ce qu'on lui reproche. Parce que la Cour suprême est tatillonne sur même les fautes de procédure. Alors, ils se sont raccrochés là-dedans, ils ont dit, et les recevables non fondés. Le fondement de sa requête. La tête des avocats ont été un petit peu trop légers. Mais la question fondamentale est celle-ci. J'ai même allé dire à José Maïkala, que je connais bien en famille, j'ai dit, laisse tomber toute cette campagne médiatique. Rentre au parti et pose le problème au niveau du bureau politique. Est-ce que, monsieur, vous voulez que je rentre en Mbandaka, oui ou non? Si oui, eh bien, j'ai été rétabli, quelque part en complique, parce qu'une fois même on l'a empêché, vrai ou faux, de voyager, c'est que je trouve un petit peu... C'est possible parce que nous avons des services de sécurité un petit peu, parfois, qui marchent sous la loi et sous la liberté individuelle. Mais il n'avait qu'à revenir à son parti politique. Il n'avait qu'à rester sous le débat. Parce qu'il fait les deux à la fois. Il fait les débats politiques et il est sous le terrain politique et sous le terrain judiciaire. Non, il faut choisir.
Donc
voilà la position que je pourrais conseiller.
Merci. Nous passons à notre dernier thème. Fin mardi dernier, de la visite en République démocratique du Congo de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité se sont entretenus mardi dernier à Kinshasa avec le chef de l'État, le Premier ministre, le président des deux chambres du Parlement congolais ainsi que la MONUC. Avant Kinshasa, ils étaient à Goma. L'ambassadeur français Jean-Maurice Ritter, chef de cette délégation, a déclaré à Radio Okapi qu'ils étaient venus en République démocratique du Congo, entre autres, exprimer le soutien du Conseil de sécurité au président Kabila et à son gouvernement. Avant de commencer ce débat, je vous propose ce reportage de notre confrère José Menga. Il a eu l'avantage de suivre toutes les étapes du séjour de cette délégation.
Les autorités congolaises sont unanimes face aux régimes de tension à l'est du pays. Que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la primature, tout comme à la présidence de la République, le message était le même. L'ONU doit redoubler d'efforts pour faire cesser les massacres perpétrés par les FDLR et les LRA contre les populations civiles à l'est et au nord-est du pays. Le Premier ministre, par exemple, a reconnu les efforts de la MONUC dans ce sens. Mais Adolphe Mouzito pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Au sujet de l'appel fait par les FDLR pour une solution politique incluant surtout un dialogue politique interne au Rwanda, le chef de la délégation du Conseil de sécurité accueille bien cette proposition. Mais il demande aux FDLR de cesser les massacres et d'accepter les désarmements. Jean-Maurice Ripper, ambassadeur de France à l'ONU et chef de délégation.
La position du Conseil de sécurité ne peut être que de dire aux gens des FDLR qui souhaitent se rallier à ce processus, qu'ils sont les bienvenus et qu'ils y participent. Mais pour ce faire, il faudrait qu'ils acceptent dans le même temps de désarmer et de cesser les violences.
Le diplomate français a déclaré que 3000 casquets bleus vont arriver incessamment à RDC pour renforcer la MONUC. En plus, l'Union européenne va débloquer les fonds nécessaires pour la réactivation de la diplomatie régionale à travers la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CPGL.
Merci, Mouyal Mangal. 3000 hommes du nouveau contingent de la MONUC seront prêts début juillet de cette année. C'est une révélation du chef de la délégation du Conseil de sécurité. N'est-ce pas une grande nouvelle?
Oui, c'est une grande nouvelle pour un pays qui a souffert de la guerre et qui continue de souffrir plus de 10 ans, donc ça vaut cela. Mais lorsque, quand on représente la géostratégie et géopolitique de la République démocratique du Congo, on ne se battrait pas pour pouvoir vraiment mobiliser le UNI afin de déployer les casques bleus. Il existe bien des militaires congolais et suffisamment qu'il faille remobiliser, qu'il faille conditionner pour les déployer dans les provinces de l'Est et assurer la sécurité à la population congolaise. Mais c'est vrai, maintenant, on se rabat toujours sur l'ONU. Pourtant, quand vous regardez la communication entre le gouvernement congolais et l'ONU, à peu près représenté à travers la MONUC, on sent qu'il y a des insuffisances de communication. On ne prend pas les choses au sérieux. Il n'y a pas des études d'anticipation. On est en train de subir. Ça veut dire, depuis plus de 10 ans, dans la plupart des cas, le gouvernement congolais subit la communication extérieure. Il subit la communication stratégique des autres partenaires qui le précèdent. Parce que ces partenaires ont le temps d'analyser, ont le temps d'étudier et de prendre l'initiative. Merci. En termes de communication, en termes de diplomatie, on est en train de subir.
Merci. Nicodème Bakoleta, vous êtes à Beni, au Nord Kivu. La délégation souhaite aussi que les auteurs des violences sexuelles qui font partie de l'armée congolaise soient punis. Et des noms de ces présumés criminels ont même été donnés au gouvernement congolais. Pensez-vous que cette fois-ci, des sanctions seront prises contre toutes ces personnes qui continuent à violer?
Bon, le président de la République lui-même a fait la déclaration affirmant qu'il privilégie d'abord le retour de la paix dans la province du Nord Kivu et dans le Bas Kivu. Et que cela voulait dire qu'il était en balance cette situation, donc entre guillemets, cette personne à la justice était chercher la paix dans la province, donc il y avait une sorte de vie, une sorte de balance, et que le poids allait dans le sens de privilégier, les termes, privilégier la paix et privilégier ces personnes qui ça et là. Vous avez tout à l'heure parlé de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui est passée dans la province. Vous savez que c'est presque des personnalités de ces rangs arrivent régulièrement dans la police de l'Ontario. Et que, on s'est souvenu l'année dernière, au mois de juin, si j'ai encore une bonne mémoire, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était passée dans la province à l'issue de ce passage. Il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU allant dans l'essence d'augmenter l'effectif de l'ONU. Alors, pourquoi savoir que ce demi-passage a dit.
Oui, nous avons perdu Nicodème. Et Fidel Moussangou, une certaine opinion pense que des personnes comme Bosco Ntaganda ne doivent pas être arrêtées au nom de la paix. Comment analysez-vous ce temps de vue?
Moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo, mon pays, notre pays, a beaucoup donné. Combien? Il y a 4 Congolais qui sont déférés devant la Cour pénale internationale. Ça suffit comme ça. On a trop donné. Il faut arrêter ça. On ne doit pas devenir un laboratoire de cobayes pour la Cour pénale internationale. Je suis contre ce modèle. Nous avons des juridictions, ils vont juger des gens ici. Les crimes qu'on colle à Jean-Bosco Ntaganda, c'est à l'époque qu'il était dans l'Outiri ou dans le Nord Kivu. Mais combien de crimes ne commettons pas chaque jour? J'apprends qu'il y a des maïmaïs qui sont à la liof de l'air pour violer et tuer les Congolais. C'est des crimes. Ici, à Kinshasa, il n'y a pas de crimes. Mais par-ci, par-là, au Katanga, il y a Gédéon là-bas qui a commis des crimes, qui a violé, qui a tué les gens. Il a été condamné. On s'arrête là. Nous avons des juridictions judiciaires compétentes. Donc, qu'on nous cesse de nous humilier chaque fois qu'il y a un Congolais, on l'amène, main liée. Non, c'est trop ridicule. Il y a des crimes, il y a des pays pour lesquels la Cour pénale internationale ferme les yeux. Je suis d'accord. D'autre part, la paix n'a pas de prix. Vous savez, moi, je suis de l'Est. C'est là, mon pays. Je vais régulièrement. J'étais à Goma pendant les combats, les opérations aujourd'hui. J'étais jusqu'à à Punagana. J'étais à Masisi. J'ai vu mes compatriotes. Non, il faut arrêter. La paix n'a pas de prix. Il faut permettre à l'Est de respirer. Ça fait des années. Ça fait un deuxième élément. Je crois que les efforts devraient se tourner vers les leaders politiques et sociaux du Kivu, le Grand Kivu, pour faire pression sur le gouvernement pour qu'enfin les militaires soient payés. Pour qu'enfin, on mette des moyens conséquents pour mettre fin aux LR. Et là, l'apport de la MONUC est important. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que la mission de la MONUC soit modifiée.
On lit le chapitre 7. Merci Fidèle Nsangou. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et Kéline Couté qui a réalisé pour vous cette émission. Nous n'oublions pas toute l'équipe de dialogue entre Congolais composée de Jean-Claude Kimba Kamanga, Alain Irung, Kéline Couté et Samuel Kachat. En leur nom, Guy Maté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Capsule.